Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Ce matin, nous allons lire trois textes et nous serons particulièrement courts ce matin. Exceptionnellement, très exceptionnellement, nous serons courts. Vous allez être heureux et sortir en vous disant « Mais c'était un culte magnifique, on a eu la plus courte prédication de notre vie de chrétien. » Alors, on va lire trois textes. Le premier dans Ézéchiel. Ézéchiel 10, versets 18 à 20. Ézéchiel 10, versets 18 à 20. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur les chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Ils sortirent et les roues sortirent avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel et la gloire du Dieu d'Israël reposait sur eux tout au-dessus. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Amen. Un autre texte dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, et là, les versets 57 et 58. Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille qu'on le refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fut-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Et le dernier texte, enfin dans Apocalypse, chapitre 2. Versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Voici l'ange de l'église d'Éphèse écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui ne se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourquoi une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Nous avons été conduits dans la louange autour du thème de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour incommensurable de Dieu. Un Dieu qui nous couvre par son amour. Un Dieu qui ne met pas au devant son jugement, qui ne met pas au devant sa rigueur, qui ne met pas au devant sa condamnation, mais qui pousse à l'avant sa grâce et son amour. Et nous sommes tellement heureux d'être des enfants qui sont des fils, des filles d'un Dieu si grand en amour. Et cette semaine, justement, on a fêté la fête de l'amour, la Saint-Valentin. C'est une belle fête. On préfère ça qu'avoir Halloween, par exemple. Merci pour cette fête. Une fête dans laquelle on fête l'amour, on fête les relations amoureuses. Et c'est une fête qui, qu'on soit marié ou pas, qu'on soit en couple ou pas, c'est une fête qu'on voit comme étant la fête de l'amour. Au rendez-vous, beaucoup de petites choses, des petits restos, des pique-niques, des balades, des cadeaux, des mots doux, des petites lettres, des déjeuners au lit, enfin bon voilà, plein de belles choses pour la fête de la Saint-Valentin. Et encore une fois, c'est bien que dans notre société tellement morne, tellement dure, tellement pénible, on ait des fêtes un petit peu comiques, quoi. Où on a un petit peu envie de sourire et où on célèbre les choses positives que l'on a. Et nous, nous sommes aussi avec Dieu dans une relation d'amour, une vraie relation d'amour dans laquelle son cœur nous tient et dans laquelle nous sommes tenus par son cœur. Quelle grâce! Et pourtant, une relation d'amour, c'est toujours une relation qui s'entretient. Une relation d'amour n'est jamais une relation qui est donnée pour toujours, telle qu'elle est, et qu'on peut dire, ben voilà, on s'aime et c'est tout, et au revoir et merci. Et même l'amour qu'on a les uns avec les autres, n'est-ce pas? À jumeaux, on s'aime très fort. Enfin, moi, je vous aime très fort. Je sais bien que la réciproque n'est pas vraie, mais c'est pas grave. Mais on s'aime très fort, mais cette relation d'amour qu'on a les uns avec les autres, c'est une relation qu'on entretient. Et il y a tout un ensemble de choses qu'on fait, il y a une attention qu'on se donne, une compassion qu'on se donne, parce que l'on s'aime. Et la relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est une relation dans laquelle nous avons à entretenir notre contact avec Dieu. C'est une relation dans laquelle nous avons à être conscients du bénéfice de sa présence. Lorsque un amoureux, une amoureuse, un fiancé, une mariée, fête son conjoint, il lui dit... Je suis heureux que tu sois là. Je suis heureux que tu existes, je suis content que tu sois là, ça me réjouit que tu sois là, et je veux te le manifester. Et quelque part, au jour le jour, dans une relation comme celle-là, c'est aussi une relation dans laquelle on fait en sorte que l'autre soit bien, n'est-ce pas? On fait en sorte que l'autre soit content d'être là. On essaye. Et on essaye de créer une atmosphère dans laquelle les choses se passent bien. Et dans la relation avec Dieu, c'est exactement la même chose. Nous avons besoin d'être des enfants, des fils de Dieu, qui sont capables d'entretenir leur relation avec Dieu et qui sont capables de faire en sorte que Dieu se sente à l'aise dans leur vie. Que Dieu se sente à l'aise à l'intérieur de moi. Que Dieu se sente à l'aise dans mon église. Que Dieu se sente à sa place. Que Dieu soit heureux d'être à l'intérieur de moi. Alors évidemment, c'est une vérité qui peut sembler très peu biblique, hein, parce qu'on se dit bon que Dieu soit heureux d'être là, ou ben, voilà, on pourrait dire la présence de Dieu ne change pas en fonction des lieux, en fonction des circonstances, Dieu est toujours content d'être là. Eh bien, ce n'est pas vrai. Nous avons lu trois textes, qui sont des textes dans lesquels on voit la présence de Dieu qui est attristée. C'est-à-dire Dieu qui n'est pas content d'être au milieu de son peuple. On sait que depuis toujours, la volonté de Dieu, ça a été d'être en communion avec son peuple. Dieu veut être au plus près de son peuple. Et c'était comme ça au jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient dans une communion parfaite avec Dieu, si bien qu'ils avaient un rendez-vous quotidien avec lui, une vraie communion. Et le péché a cassé cette relation-là. Ils ont été chassés de la présence de Dieu, parce que Dieu n'a pas toléré le péché là où il était. Et très vite dans la Bible, on voit que Dieu réexprime sa volonté d'être au plus proche des humains. Au plus proche des humains. Il veut être avec nous. Il veut être auprès de nous. Dans Exode 25, verset 8, il dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu... Dieu veut habiter avec les hommes. Dieu veut être avec nous. Et les commentateurs posent la question, le verset dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Ce n'est pas logique, on devrait dire « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai dans le sanctuaire ». Et non, Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». En d'autres termes, ce sanctuaire va servir à ce que je puisse être là, près de mon peuple. Je veux être là, je veux être présent. On sait que Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera ». Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça la volonté de Dieu. Une relation de communion avec nous, il veut être au plus proche de nous. Dieu veut habiter en nous. Il y a trois grands aspects. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut être au milieu de nous. Dieu veut être avec nous. Et vous savez que le peuple d'Israël a vécu cette présence de Dieu, notamment au travers de la colonne de nuée. On a parlé la dernière fois, rappelez-vous, de l'ange. Vous vous rappelez que Dieu dit « Je vais envoyer un ange avec toi ». qui va chasser tes ennemis. Dieu était présent avec son peuple au travers de l'ange. Et avec le peuple d'Israël, il était aussi présent au travers de la nuée, de la colonne de nuée. L'Éternel était devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu avait mis sa colonne de nuée pour manifester qu'il était présent avec son peuple. Il voulait être avec son peuple. Cette nuée, elle dirigeait Israël. Vous savez qu'en fait, cette nuée, c'est, si vous voulez, c'était un énorme nuage. Et le nuage permettait au peuple de savoir quand il devait se déplacer. Donc quand la nuée bougeait, on avançait. Quand elle s'arrêtait, elle s'arrêtait. Et cette nuée-là, elle est particulière parce qu'elle a protégé Israël. Donc au travers de sa présence, Dieu veut non seulement nous diriger, nous montrer le chemin, mais veut aussi nous protéger. Parce que lorsque Israël a voulu quitter l'Égypte, eh bien les Égyptiens sont arrivés très très près d'eux. Et Dieu a utilisé cette nuée-là pour faire jour d'un côté et pour faire nuit de l'autre. Ça veut dire que la nuée a permis que les Israélites soient dans la lumière et que les Égyptiens soient dans les ténèbres et qu'ils ne sachent pas avancer plus loin pour attraper les enfants d'Israël. C'est la présence de Dieu. Dieu manifeste sa présence au travers de cette nuée à son peuple. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc, au travers de cette expression de sa présence, Dieu protège son peuple et Dieu repousse ses ennemis. Dieu veut être avec son peuple. Premièrement, Christ habite en nous. Il habite en nous. Il a fait de nous son sanctuaire, sa résidence, son habitation, le Dieu où il veut être. Christ habite en nous. En ce jour-là, dit Jésus, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Éphésiens 3, 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite en nous. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Deuxièmement, Christ est au milieu de nous. Donc il habite en nous individuellement. Mais Christ habite aussi au milieu de nous en tant qu'assemblée. Il dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu veut être au milieu de nous. Mais aussi, Christ veut être avec nous. Quand il donne la mission à l'Église, il lui dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu, quel bénéfice, quelle grâce, quel amour que de pouvoir bénéficier d'un Dieu qui est avec nous. Et pourtant, pour revenir à ce qu'on disait, les trois textes que nous avons lus sont des textes dans lesquels Dieu est attristé d'être avec son peuple. Dieu n'est pas content d'être là, si on pouvait le dire en termes humains, qui sont des erreurs théologiques, mais Dieu n'est pas content d'être là. Pour trois raisons différentes. La première, le premier texte d'Ézéchiel que nous avons lu, c'est un texte dans lequel on voit, si vous avez bien compris un petit peu, de Ézéchiel 8 à Ézéchiel 10, qu'en fait, la gloire de Dieu est en train de quitter le temple. Donc, les chérubins, il y a vraiment cette présence de Dieu qui est en train graduellement de quitter le temple. Pourquoi ? Parce que le peuple vit dans l'idolâtrie. Dieu voulait habiter avec son peuple au travers du sanctuaire. Mais le péché, l'idolâtrie du peuple est devenue tellement pesante, tellement puissante, que Dieu a tout petit, retiré sa présence. Il n'était pas à l'aise d'être là. Dans une relation amoureuse, on peut se dire, je ne suis pas à l'aise dans cette relation, ça ne me va pas. Bien, Dieu enlève sa présence. Dans le texte que nous avons lu, le deuxième texte de Matthieu, c'est un texte très particulier, parce que c'est un texte où on nous parle de Jésus. Et alors, c'est un texte dans lequel, en fait, on voit Jésus qui fait quelques miracles, il guérit quelques malades, et puis le texte nous dit, si vous avez bien lu, que Jésus ne put pas faire d'autres miracles à cause de leur incrédulité. La Bible dit, Jésus ne put pas faire de miracles. Il ne put pas. Il n'est pas écrit, il n'a pas voulu, Il n'est pas écrit, ça, il n'a pas su, ça a été impossible pour lui de faire d'autres miracles à cause de leur incrédulité. Tiens, on croyait que Dieu était puissant partout, de la même façon, au même endroit. Eh ben non, au milieu de ces gens-là, en fait, c'était les gens qui avaient vu Jésus grandir. Et donc, ils disaient, oh, mais lui, c'est le fils de... En fait, ils méprisaient Jésus, si vous voulez. Il méprisait Jésus, il méprisait sa présence, il méprisait son ministère. Et il disait un petit peu, oui, mais bon, on le connaît, c'est le fils d'un tel. J'étais incrédule. Et il méprisait Jésus. Et la Bible dit, il n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à l'aise. Il n'était pas... L'atmosphère dans laquelle il était, une atmosphère d'incrédulité, une atmosphère de mépris, l'a empêché d'agir dans son peuple. C'est terrible, hein, ça, non? Ça ne vous fait pas réfléchir? De se dire que ça veut dire que mon attitude crée une atmosphère qui peut empêcher Dieu d'agir en moi, dans mon cœur, dans ma vie. Jésus ne put pas faire de miracle. Deuxième exemple d'un moment où la présence de Dieu est attristée quelque part. Et puis troisième exemple, c'est le texte d'Apocalypse 2, on en avait parlé la dernière fois. C'est un texte dans lequel, vous le connaissez, le peuple est tiède, c'est-à-dire qu'il n'est pas pleinement engagé, il n'est pas pleinement à la suite de Jésus, il est entre les deux, il ne sait pas quoi. Hein, vous savez, comme on dit, être assis entre deux chaises. Eh bien, voilà que Jésus dit à cette église-là, « Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et je retirerai mon chandelier. » Et le chandelier, c'est le symbole de la présence de Dieu, en fait. Il dit, parce que tu es tiède, si tu ne te repens pas, je vais venir à toi et j'enlèverai le chandelier. Je vais enlever ma présence du milieu de toi. Vous voyez que la Bible nous montre qu'il y a une relation entre l'atmosphère qu'il y a en nous, l'atmosphère qu'il y a au milieu de nous et la présence de Dieu. Dieu peut être attristé en nous, Dieu peut être attristé au milieu de nous. Et il ne faut pas le prendre comme un jugement écrasant, terrifiant. Il faut le prendre dans le sens positif, de dire je veux prendre soin de ma relation avec Dieu. Je veux que Dieu puisse trouver en moi un espace dans lequel il se sente à l'aise. Je veux que Dieu puisse habiter en moi et qu'il puisse trouver pleinement une place où réellement on l'aime, où on l'adore, où on cherche sa face. Rapidement, en quelques points. Créer une atmosphère qui plaît à Dieu. Une atmosphère dans laquelle Dieu est heureux. Vous savez, pour la vie d'un chrétien, la seule chose qui compte pour nous, c'est de plaire à Dieu. L'objectif de notre vie, nous cherchons à plaire à Dieu. Ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Même lorsque nous sommes en difficulté, même lorsque nous souffrons, même lorsque ça ne va pas, ou même lorsque nous sommes fâchés, même, quel que soit notre objectif, c'est de plaire à Dieu. C'est que Dieu puisse approuver notre vie. C'est que Dieu puisse approuver notre conduite. Ça y est, ça recommence. C'est que Dieu puisse approuver le temple que nous sommes et qu'il puisse y déverser sa présence. Quelques points rapidement. Premièrement, Dieu se plaît au milieu de cœur bouillant, fidèle et repentant. Dieu se plaît au milieu de cœur bouillant, fidèle et repentant. C'est exactement ce qu'on nous parle dans Apocalypse 2. Il s'agit de dire qu'en fait, Dieu souhaite être dans des lieux où nos cœurs sont bouillants. Alors un cœur bouillant, ce n'est pas un cœur excité. Parce que beaucoup de gens croient que quand on dit un cœur bouillant, c'est d'être excité. D'être une petite pile électrique, on ne sait pas. Non, ce n'est pas ça. Être un cœur bouillant, ce n'est pas être tout le temps en extase. Un cœur bouillant, c'est un cœur engagé. Vous comprenez? C'est un cœur attaché. Si quelqu'un dit, le 14 février à son mari, je suis bouillant, ben ça ne veut pas dire je suis excité, ça veut dire j'ai un cœur qui est chaud. Je suis heureux, je suis engagé auprès de toi. Je suis engagé auprès de toi. Donc, premièrement, Dieu se plaît là où nos cœurs sont rempli de chaleur pour lui. Rempli d'une chaleur bouillant et pleinement engagé auprès de lui. Lorsque réellement nous mettons nos cœurs, nous impliquons notre vie auprès de lui, dans sa présence. Et vous savez que dans la Bible, très souvent, Dieu utilise l'image de l'adultère spirituel. Il dit « vous vous êtes prostitué », qui dit par exemple à son peuple, ou « tu m'as été infidèle ». Pourquoi ? Parce que c'est une métaphore qui montre bien que lorsque le peuple n'est pas bouillant, eh bien il laisse son cœur s'en aller à l'extérieur. Et il va auprès d'autres divinités. Le cœur bouillant, c'est un cœur engagé, c'est un cœur fidèle. C'est un cœur fidèle. Et on a dans la Bible tant de fois des exemples de moments où en fait Dieu constate tellement que son peuple est infidèle, c'est-à-dire que son peuple va auprès d'autres dieux, que Dieu utilise des expressions du genre « je détourne de vous mes yeux ». C'est une expression que Dieu utilise parfois. Je cache ma face, je leur cacherai ma face. Il y a un chant qu'on chante parfois, je ne sais plus c'est quoi le chant, mais en tout cas c'est un chant qu'on chante, dans lequel on dit Seigneur, que ta gloire revienne, c'est ça, que ta gloire revienne dans l'Église. Sonde-nous, ô Dieu, quel péché nous cache ton visage. Vous connaissez ce chant-là? Sonde-nous, ô Dieu, quel péché nous cache ton visage. Ça, c'est biblique, n'est-ce pas? Je cache ma face, il utilise comme expression. Pour dire, et Ésaïe 1, verset 15, pour ceux qui veulent un exemple, quand vous étendez vos mains, il dit, je détourne de vous mes yeux. Vous voyez, donc c'est pour dire que Dieu veut être dans des endroits où sa présence est appréciée, est désirée, comme nous l'avons chanté, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, Jésus, tu es là. Il veut être avec nous. Et c'est à nous de créer cette atmosphère dans laquelle Dieu se plaît. Dans la Bible, les cœurs froids, très souvent, mènent à ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait qu'on se détourne de la foi. L'apostasie, elle peut être morale, une apostasie dans notre conduite, c'est-à-dire qu'on se détourne de Dieu dans notre façon de nous conduire. On abandonne sa volonté, on abandonne ses commandements. Ou alors, apostasie doctrinale, c'est-à-dire qu'on abandonne sa parole. Notre frère Benoît qui est toujours là pour lever le doigt et pour dire « Sola Scriptura ». Merci Benoît d'être là pour nous le redire. Ne le dis pas trop souvent. Mais Dieu veut être dans des endroits où l'on est fidèle à sa parole. Dieu aime être dans un endroit où sa parole fait autorité. Sa parole fait autorité. Je me rappelle, j'ai peut-être déjà donné cet exemple-là, j'étais à un souper de Nouvel An, et avec des chrétiens, on ne dit pas un souper, un réveillon, on dit, de Nouvel An. Et donc on était là, et c'était vraiment une belle fête, on rigolait, etc. Je l'ai déjà dit cette histoire-là, mais ce n'est pas grave. Vous vous en fichez de expliquer. Bon. On était là tous ensemble, on rigolait, on mangeait, il y avait de la bûche, tralali, tralala, c'était cool. Et puis à un moment donné, il y en a un qui parle d'un verset biblique et qui dit, mais oui, mais ce verset-là, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Je ne trouve pas que c'est ça que ça veut dire, en tout cas. Et puis il y a une sœur qui, elle avait bien compris le verset et qui se propose de lui expliquer comment elle l'a compris. Donc c'est une fête. C'est une fête, il y a de la musique, tout le monde est en train de danser, on s'éclate. Et au moment où la sœur prend sa Bible pour dire, ben en fait le verset veut dire, plus un bruit. Tout le monde s'est tu. Parce qu'elle a ouvert la parole de Dieu, il n'y avait plus personne qui avait envie de rigoler, puis tout le monde a écouté ce qu'elle a expliqué. C'était pas, elle n'est pas venue en grande tenue pour dire je vais prêcher, elle a juste dit, voilà ce que moi j'ai compris du verset. Et parce qu'elle a donné sa compréhension du verset, parce qu'elle a ouvert la Bible pour parler de la parole de Dieu, tout le monde s'est tu. En pleine fête de réveillon. J'ai dit, mais c'est magnifique, moi. Je trouve ça magnifique. Pourquoi? Parce qu'on respecte la parole de Dieu. On aime la parole de Dieu. Et on aime passer des instants, même si c'est 5 minutes dans une fête. Et c'est ça, quand on dit la parole de Dieu fait autorité. Ça veut dire que quand j'entends la parole de Dieu, ça crée en moi une révérence et un amour. Pas seulement, mais oh, j'ai envie de comprendre, moi, ça. Dieu aime être dans des endroits où Sa parole fait autorité. Et vous savez que Matthieu 24, verset 12 nous dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Donc cette question de l'amour que nous avons pour Dieu, c'est une question centrale parce que nous sommes dans des temps où l'amour des chrétiens pour Dieu va se refroidir. Où l'amour véritable, la foi véritable va se refroidir. On va développer l'égoïsme, un amour refroidi pour le Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et Jésus va dire aussi seulement, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand il dit ça, il ne parle pas de la foi au sens croire en Dieu. Ici, c'est la foi dans le sens de la foi persévérante. La foi de ceux qui réellement... Parce que vous vous rappelez que c'est un texte qui vient après la fameuse parabole du juge inique. Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui seront remplis de foi et qui croiront que Dieu existe, qui croiront que Dieu est vivant, que Dieu est puissant? Deuxièmement, c'est justement ça, Dieu se plaît auprès d'hommes et de femmes de foi. Vous voyez, on l'a lu dans Matthieu, comment est-ce que Jésus ne sait pas faire de miracles à cause de l'incrédulité. Parce qu'on doute de sa puissance, parce qu'on doute de son autorité, parce qu'on doute de qui il est, il ne peut pas faire de miracles. Dieu veut être au milieu de nous dans une atmosphère de foi, dans laquelle nous savons qui est Dieu. Nous ne perdons pas de vue qui est Dieu. Et la foi, ça ne veut pas dire que nous croyons que tout va être parfait, que tout va s'arranger. La foi, c'est qu'on ne perd pas de vue qui est Dieu. On ne perd pas de vue sa toute-puissance, on ne perd pas de vue sa souveraineté, on ne perd pas de vue sa bienveillance. On reste attaché à cette vision et on croit. L'incrédulité, c'est le doute. Dieu n'aime pas se trouver dans des lieux où l'on doute de qui il est, dans lesquels on doute de sa présence, dans lesquels on doute. N'est-ce pas que si on est méprisant envers quelqu'un, ben, il ne va pas aimer être avec nous. Hein, si on dit oui, Dieu, oui, bon, oui. Je ne saisis pas trop bien l'éternel, est-ce qu'il agit, est-ce qu'il... Vous voyez, cette atmosphère de doute ne plaît pas à Dieu, tout comme si jamais nous doutons les uns des autres, ça ne plaira pas, quelle que soit la relation dans laquelle nous sommes, le doute, dans une relation amoureuse. Moi, je trouve que la plus belle femme du monde, c'est la reine Mathilde. Elle est magnifique. Hein, avec sa belle permanente, là. Hein, et alors, elle marche. Et, oh, elle est magnifique, je trouve. Elle a un de ses styles, une de ses splendeurs, ses élégances. Oh, notre reine Mathilde. Un petit peu comme toi, hein, Tantane. Elle marche un petit peu comme toi. Oui, mais... Et bien, son mari ne doute pas de cette valeur qu'elle a. Et ça se voit d'ailleurs, c'est quelqu'un de valeureux, très intelligente, la reine Mathilde. Elle ne parle pas beaucoup, ça c'est vrai. Et je ne pense pas qu'elle se fait coiffer à la place du ballon, mais toujours reste-t-il, on n'en sait rien, mais toujours reste-t-il que c'est quelqu'un de beaucoup d'élégance. Et quand moi je l'ai déjà vu en vrai. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait, je l'ai déjà vu en vrai. À la fête nationale, à Bruxelles. Elle est passée près de moi. Et alors, quand la reine Mathilde arrive, tout le monde est respectueux. Vous voyez, il n'y a pas des gens qui se retournent en disant, oh, ben, c'est la reine Mathilde. Non, tout le monde est là autour d'elle, tout le monde la regarde, parce que c'est la reine. Et c'est la même chose, Dieu cherche des cœurs qui sont orientés vers lui, qui sont respectueux quand Dieu est là, qu'il est... Quand Jésus dit, que ton nom soit sanctifié, c'est ça que ça veut dire. Que ta présence soit respectée, que ton nom soit valorisé, que ton nom soit aimé, que ta présence soit recherchée, que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Dieu aime être dans des lieux où son nom est sanctifié. Quatrièmement, Dieu aime être là où il y a la justice et l'équité. Psaume 89, verset 14 nous dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » C'est beau ça. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Ça veut dire que Dieu établit son trône là où il y a la justice et l'équité. Et c'est pour cette raison que dans les petits prophètes, vous voyez que très souvent Dieu envoie ses prophètes pour parler contre la corruption. Vous voyez, quand vous avez déjà lu dans les petits prophètes, dans Amos par exemple, dans Osée, dans ces petits prophètes-là, dans lesquels Dieu attaque son peuple parce que son peuple est corrompu. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité. La justice et l'équité, Dieu veut être dans des endroits où on est juste, où on est équitable. Rappelez-vous quand, dans le livre des Actes, à un moment donné, les veuves commencent à se disputer parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles pensent avoir. On établit des diacres, pourquoi ? Pour être juste. Pour être équitable. Dieu aime la justice. Dieu aime la droiture. Dieu aime l'intégrité. Dieu aime l'équité. Que nous soyons justes, que nous soyons équitables dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous parle des faux témoignages. Tu ne déposeras pas de faux témoignages contre ton prochain. Psaume 37, verset 28. Car l'Éternel aime la justice. Est-ce que je suis juste dans mon attitude ? Est-ce que je suis juste dans mon comportement? Est-ce que je suis juste? Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous savons être justes? Quand un de tes proches, par exemple, ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un proche qui vient près de nous et qui nous raconte un conflit. Vous avez déjà vécu ça. Un proche qui vous dit, oui, ben, il s'est passé ça, et puis il a dit ça, et puis il a dit ça, et puis il a dit ça. Est-ce qu'on sait être juste? Et si c'est mon proche qui a tort, ben il a tort. Ou est-ce qu'on prend systématiquement la défense? Si c'est mon mari qui a tort, c'est mon mari qui a tort. Si c'est mon enfant qui a tort, c'est mon enfant qui a tort. La justice, n'est-ce pas? La justice, l'équité. Le Dieu qui ne fait pas de favoritisme, nous dit la Bible. La justice et l'équité. Et puis cinquièmement, Dieu se plaît à être là où ses attributs sont pleinement vécus. Les attributs de Dieu, c'est son amour, sa bonté, sa patience, sa sainteté, sa justice, sa grâce. Et Dieu aime se trouver dans des lieux où l'on vit ses attributs. La Bible nous dit que l'amour est la nature de Dieu. Dieu est amour, mais Dieu veut être dans des lieux, dans des cœurs, dans des vies. Dieu veut faire sa demeure dans des lieux où l'on vit l'amour. Vous voyez, c'est ça en fait, créer une atmosphère. Créer une atmosphère, c'est dire, je veux que dans la demeure que je suis, que dans la demeure que nous sommes, il y ait des cœurs bouillants pour Dieu, de la fidélité. Je veux que dans cette atmosphère, il y ait de la foi. Je veux qu'il y ait de l'amour pour que Dieu puisse être à l'aise en nous, au milieu de nous. La miséricorde, la sainteté, l'unité. Dieu veut être dans des lieux où sa présence est respectée, est aimée. Et il veut que nous puissions préparer notre temple intérieur, notre temple ecclésial, pour que Dieu puisse agir, être présent et se réjouir. Oh, il est 55, dit. Finalement, ça n'a pas changé d'habitude. C'est pas ma faute, hein, c'est le Seigneur. Ça, c'est, je n'y suis pour rien. J'ai vraiment essayé, mais voilà. À mon âge, on ne change plus. Hein. Anthony, à notre âge, on ne change plus, hein, c'est fini. Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, laissons nos cœurs être interpellés. Est-ce que ma demeure intérieure, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce que mon église, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce que Dieu peut vraiment installer son trône au milieu de nous en étant content? Moi, ça me plaît d'être ici. J'ai envie d'agir ici. Parce que Dieu se dit... Ça sent mauvais là. Hein? Dieu peut dire ça de moi-même. Ça sent mauvais dans le cœur. Dieu peut dire ça d'une église, ça sent mauvais, je vais enlever mon chandelier. Parce que Dieu dit, mais moi j'aime être avec eux, j'aime répandre ma paix, j'aime répandre ma joie, j'aime déployer ma présence dans ce lieu. Amen.